tous et bienvenue dans ce 6e épisode de notre podcast Protège ma promesse. Nous allons aujourd'hui continuer l'histoire des guidés scouts d'Europe que nous avions commencé avec Lionel Christian. Et aujourd'hui, je reçois Marc de Coligny. Bonjour Marc de Coligny.
Bonjour.
Vous êtes ancien scout dans la FSE et vous êtes auteur de petits livres sur le scoutisme. Vous vous intéressez particulièrement à cette histoire. Donc nous allons reprendre le cours de l'histoire des scouts d'Europe à partir des années 70, au moment où votre père, Jean-Charles de Coligny, rencontre Peyrig Géraud-Kerraod. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et de ce qu'ils ont entrepris ensemble ?
Alors effectivement, en 1970, mon père, qui était officier à Brive à ce moment-là, veut se lancer dans le scoutisme pour l'éducation de ses propres enfants. Et il contacte les scouts d'Europe et donc Peyrig, Pierre Géraud-Kerraod. Et là, ce sera le début d'une collaboration qui va durer donc 15 ans, de 70 en 85, jusqu'à l'éviction de mon père en 85 et le départ de Peyrig l'année suivante en 86, aux journées d'Arquesnan.
Voilà. Donc c'est le début de la route des scouts d'Europe.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est fait ?
Alors, effectivement, là, il y avait déjà des commissaires nationaux route avant mon père, hein, bien sûr. Mais papa avait voulu donc lancer la branche rouge et lancer une nouvelle pédagogie qui n'existait pas encore dans le scoutisme et encore moins, bien sûr, dans la FSE. Et en accord avec Pierre Géraud, avec Peyrig, il a lancé un nouveau cursus qui s'étale, on va dire, sur 5 ans. Donc, pour les grands éclaireurs qui montent au clan à 16 ans, donc un temps de 2 ans, de 16 à 18 ans, qui est le temps qu'on appelle pistard à l'époque, qui est devenu le temps pilote, à cause des filles, hein, pendant lequel eh bien, le garçon va réfléchir sur sa vocation, sur ce que sera sa vie d'homme, et va réaliser ce qu'on appelle à l'époque son unité de vie. À l'issue de ces 2 ans, il va parcourir sa longue piste, qui est une épreuve unique, dont le but est de vérifier justement cette unité de vie, et il va se lancer pour 3 ans, c'est vraiment un long service, 3 ans de service, soit comme chef dans une unité, soit en dehors du mouvement d'ailleurs. Et au bout des 3 ans, donc à 21, 22 ans, il va prendre son départ routier. Donc le départ routier, pour mon père, c'est l'aboutissement logique de toute la formation scout. Ce n'est plus la branche verte comme chez les anciens scouts de France, c'est ce qu'il faut mettre en place. Donc il prend le départ routier tel qu'il apparaît dans le cérémonial, et il va mettre le départ routier comme le sommet, l'aboutissement logique de toute la formation scout, et lui-même d'ailleurs prendra son départ routier en février 71. Il sera le premier de la FSE à prendre son départ routier, et il formera donc tous les jeunes chefs à prendre en vue de ce départ routier. Donc il y a un décentrement complet de la branche verte vers la branche rouge, et ça sera ça, si vous voulez, la marque de fabrique de la pédagogie scout d'Europe.
Et quels sont donc les premiers grands événements de la route scout d'Europe ?
Alors ça a été mis en place dès les années début 70, 72, avec les clans des chefs. Les premières longues pistes sont parcourues à l'été 74. Voilà, et puis petit à petit, le mouvement se prendra de l'ampleur, et mon père sera investi commissaire national route en 1975 lors du grand pèlerinage à Rome des 500 chefs du mouvement. C'est au cours de ce pèlerinage à Rome que le pape Paul VI d'ailleurs s'adressera en français à tous les chefs présents, à surprise générale, personne ne s'attendait, hein, et dira ça sera une reconnaissance officielle du mouvement, en quelque sorte, face à l'épiscopat et face au mouvement des scouts de France, qui était le mouvement historique, on va dire, scout en France. Hein, et le pape a dit, guide des scouts d'Europe, sachez que vous serez toujours des amis pour nous. Nous avons grande confiance dans votre présence, dans votre travail, dans votre association et dans l'esprit du scoutisme. Oui, c'est comme une reconnaissance, je dirais, officielle. Soyez bénis, rapportez le souvenir du jubilé auquel vous avez participé, le sens de la fermeté et de la fidélité au Christ et à son enseignement. Voilà, ça c'était le... Alors, bien sûr, Pierre Géraud-Kerraod sera tellement content de cette reconnaissance qu'il l'éditera au dos de la revue Maîtrise pendant des années et des années. Voilà. On a eu après cela, donc en décembre 75, le nouveau CNR, donc mon père, lance ce qui se fera l'année suivante, en 76, les deux outils pédagogiques pour la route. Premièrement, la route Saint-Jacques, dont le premier tronçon, le Puy-Conque, sera parcouru à l'été 76, et suivi du premier Vézelay, donc à la Toussaint 76. Donc bien 76 et non pas 75, comme on voit écrit un peu partout. Si bien 76, le premier Vézelay. En 77, ça sera la deuxième route Saint-Jacques, donc qui entrera cette fois-là en Espagne et qui parcourra les premiers kilomètres du Camino Frances en Espagne. Voilà. Et puis il y aura l'année 78 qui sera une année très particulière dans l'histoire de l'Église et donc du monde, puisque ce sera l'année des trois papes, l'année de l'élection d'un pape polonais, le premier pape polonais de l'histoire, le premier pape non italien depuis des siècles. Bon, on a bien compris que dans l'Église ça allait quand même un peu changer. Et durant cette année 78, à la route, il y a eu comme des décisions importantes qui ont été prises. À l'été, donc au mois d'août 78, il y a eu le grand pèlerinage des 2000 chefs et cheftaines de toute l'Union européenne à Lourdes et la consécration du mouvement à la Vierge devant la grotte. Donc ça, voilà, le côté marial, ça y était vraiment donné. Et c'est à ce grand rassemblement de Lourdes qu'a été poussé le premier grand cri fédéral, Anne-Maria Maurepas, qui venait remplacer le Notre-Dame-Montjoie des scouts français de jadis. Donc ça, c'était à l'été. Et à Vézelay, 78, donc le troisième Vézelay, 78, qui était un Vézelay un peu particulier, puisque c'était un Vézelay, le premier Vézelay qui recevait des délégations étrangères. Sur les 12 tronçons, on avait 8 Français et 4 étrangers. On a vu les Belges, on avait les premiers Allemands emmenés par le père Andreas Hönisch, jésuite bien connu, hein, c'est même lui qui présidera la grand-messe de la Toussaint le lendemain. Donc on avait toute la branche rouge garçons de l'Union, mais on avait aussi la présence des filles, parce que les guides aînés n'avaient pas de rassemblement annuel. Donc il y en a quelques dizaines qui étaient présentes. Et cette année-là, Pierre Géraud a pu se libérer, parce que d'habitude, à Toussaint, c'était toujours la période du Conseil fédéral. Mais là, il a pu se libérer, et il est venu donc à ce Vézelay-là, et il a même prononcé une allocution assez célèbre, qui était belle, hein, sur l'Europe chrétienne et tout ça, qui a été enregistrée et après publiée dans Maîtrise. Bon, c'est vraiment des grands moments. Et c'est à ce Vézelay, donc en présence du commissaire général, Péric fédéral, qu'a été décidée la consécration des branches rouges, des deux branches rouges, route et feu, de l'Union à Notre-Dame de la Visitation, qui devient la sainte patronne de la route et du feu. Voilà, donc... ce n'est plus Saint-Paul comme du temps des scouts de France qui était patron de la route, c'est Notre-Dame de la Visitation qui devient Notre-Dame de la route. Et ça s'est fait au Vézelay 78. Et ça correspondait avec la désignation de Saint-Jean-Baptiste comme Saint-Patron des pilotes qui avait été pris en 75. Voilà, c'était le complément, c'était logique. Et c'est pour cela, et c'est pour cette raison de la Visitation, que l'Eurojam de 1984 sera faite la consécration des deux branches vertes, garçons-filles de toute l'Union, de tous les pays de l'Union, pendant l'Eurojam, donc ça s'est passé le 25 juillet 84 à Notre-Dame de Paris, donc à Notre-Dame de l'Annonciation, qui devient la sainte patronne, Notre-Dame des éclaireurs et des éclaireuses, des guides, c'est la sainte patronne de la branche verte, des branches vertes, garçons et filles, en remplacement de Saint-Georges, par exemple, pour du temps des scouts de France. Voilà, donc on avait bien Notre-Dame de la route en 1978, Notre-Dame de l'Annonciation, Notre-Dame des Éclaireurs, en 84. Entre les deux, mon père avait pris aussi, pour le McLaren, avait pris Saint-Maximilien Kolb, puisque c'était le saint qui venait d'être canonisé à l'époque, et qui était le premier à avoir expliqué et médité pendant plus de 20 ans le grand message de Lourdes, hein, donc sur l'Immaculée, etc. Donc voilà, c'est pour ça que... Donc c'est Notre-Dame de Lourdes, en fait, via Saint-Maximilien Kolb, qui est la sainte patronne du Mac. Voilà. Donc ça, c'était l'année 78. En 80, on a eu la première arrivée à Compostelle, le cursus normal de la route Saint-Jacques. Et puis après, bon, on a eu... Bon, voilà, ça s'est perpétué.
Et juste, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le McLaren ?
Le McLaren, c'était le... Alors, le McLaren, c'est le troisième degré, si vous voulez. C'est le camp qui forme ceux qui vont former les chefs de troupe et les assistants chefs de troupe dans les CEP, hein, dans les camps écoles. Alors, c'est le troisième degré... On appelait ça le chamarande, FSE. Hein. Le premier a eu lieu d'ailleurs en 1970. Voilà, le premier chamarande FSE en 1970. Le McLaren, c'est une appellation qu'a voulu Péric et qu'a mise qu'a mise en place après mon père quand il était venu de commissaire national éclaireur et qui est devenu le maître de camp de ce CHAM qui est devenu à ce moment-là le McLaren. Et le McLaren, c'est donc ce camp de formation. Et mon père a avec l'accord de PGK, bien sûr, hein, a repris toutes les sessions, a réécrit toutes les sessions de ce camp de formation, qui s'appuyait non plus sur les données, on va dire, scout ou sociologiques de l'époque, des années 20, des années 30, ou même de Michel Menu, mais qui s'appuyait sur les textes du magistère, les encycliques des papes, etc. quoi. Voilà, donc tout a été reposé sur ce qui était, j'allais dire, réellement catholique quoi, et ecclésial.
Vous avez évoqué tout à l'heure les guides aînés qui se sont joints aux routiers à Vézelay. Est-ce qu'elles auront ensuite leur propre rassemblement ?
Alors voilà, donc les guides aînés, donc effectivement, étaient présentes en 78 hein, à Vézelay, mais ça n'est pas resté, bien sûr. En 79, dès l'année suivante, la commissaire nationale Feu, à l'époque, était Annette Tobar, a créé son propre rassemblement, et je crois que c'était à Chantel. Voilà, et après, ça a changé pas mal de fois de place, et maintenant, ça perdure sur Paray-le-Monial. Voilà.
Il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé dans la branche éclaireur à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette branche spécifiquement ?
Alors, oui, mon père, après avoir été commissaire national route, est passé donc à la branche éclaireur. Donc, il a repris en main tout le McLaren, donc il a refait toutes les sessions, il a formé toute une génération de chefs. On a repensé toute la pédagogie verte, si vous voulez. C'est à cette époque-là où il a relu tout le Percevin, et il a repensé toute la pédagogie verte en fonction de ce que disait le magistère, si vous voulez. Hein, il ne s'agissait plus d'inventer des choses, de faire du copier-coller de ce que faisaient les anciens. Il fallait repenser ce qu'avaient fait les anciens, en fonction de ce que disaient les textes magistères. Donc il a repensé tout ça, il a validé les textes, etc. Bon, il a fait tout son travail de commissaire national éclaireur, mais dans cette optique-là. Dans le McLaren, donc, a formé des chefs, si vous voulez, selon ce nouveau principe. Alors maintenant, je ne sais pas si ça s'est poursuivi depuis, parce qu'après, bien sûr, il a passé la main en 85. Mais voilà, à l'époque, c'était comme ça. C'est aussi à cette époque-là où avait été créé le réseau de l'araignée pour les patrouilles libres, avec Jacques Mougenot en 79. Et à cette époque-là, le réseau de l'araignée, c'était une réponse à un vrai problème. Il y avait des patrouilles qui étaient sans chef. On ne pouvait pas jouer le jeu des patrouilles, qui logiquement se joue en troupe. Donc il a fallu créer ce rassemblement, ce rallye pour les patrouilles libres. Et je me souviens très bien, Jacques Mougenot disant, à la fin de ces rallyes, donc qui se passaient à Gastepo, là sur le bord de la Dordogne, il disait bien à tous les scouts, l'année prochaine, vous revenez, mais vous revenez chacun avec un copain. Donc chaque patrouille revient avec une patrouille sœur. Et c'est comme ça qu'on recomposait en quelque sorte les troupes. Le but, c'était, avec ces patrouilles, qu'elle s'intègre de nouveau dans une troupe. Le but, c'est pas de faire les patrouilles libres pour des patrouilles libres, comme ça s'est fait, hélas, depuis, où les patrouilles libres, c'est devenu une institution, presque une échappatoire au jeu de la troupe. Or, le scoutisme, c'est le système des patrouilles au sein de la troupe. C'est ça, la branche verte, telle que c'était voulu par le Baden-Powell, bien sûr, et surtout par le Percevin. Le système des patrouilles ne peut se jouer qu'en troupe. Et c'est pour cela qu'à l'Eurojam de 84... c'est bien des troupes qui ont été sélectionnées et non pas des patrouilles, c'est des troupes entières, chefs de troupes, assistants compris, qui ont été sélectionnées, pas des patrouilles séparées. Et le grand jeu, qui était ce qu'on appelait à l'époque la grande chasse, je crois de mémoire, c'est la grande chasse qui a duré trois jours pendant cette Eurojam de grand jeu, c'est un grand jeu qui s'est joué par troupe et non pas par patrouille. Ce n'était pas des rallyes de patrouilles, non, c'est les troupes qui jouaient ensemble, articulées en patrouille, bien sûr, c'est le système des patrouilles, mais dans la troupe. Voilà. C'est ça, voilà. Alors bien sûr, depuis, ça quand même, c'est un peu bougé, mais ça, ça a été après le départ de mon père et bien sûr de Pierre Géroux-Carode.
Donc ce premier Eurojam en 1984, il va se renouveler ensuite régulièrement.
Voilà, au début, c'était pensé pour... Le système avait été lancé pour que les gens bourrés aient lieu tous les 4 ans, comme ça se fait partout. Hein. Donc... L'année qui suivait le Rojam, c'était l'année des bilans, où on tirait les leçons, etc. L'année suivante était prévue pour désigner le chef et mettre en place les équipes qu'allait organiser le jamboree suivant, le thème du jeu, le lieu, etc. Et après, les 2 ans qui suivaient, c'était la préparation, j'allais dire, concrète du jamboree, la sélection des troupes, etc. Mais après le départ de... Après le départ de mon père et de Pierre Giraud Keraod, ça n'a pas pu se faire, quoi. Voilà, le Rojam suivant n'a pas eu lieu 4 ans après, comme c'était prévu initialement, mais 10 ans. Donc on a attendu 1994 en Italie à Viterbe pour avoir le second Rojam de l'Union.
Voilà. Et par la suite, le scoutisme européen va bénéficier de différentes reconnaissances, donc l'UIGSE par le Conseil de l'Europe en 1981, puis par le Saint-Siège en 2003, l'AGSE par la Conférence des évêques de France en 2001. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça a changé pour les scouts d'Europe ?
Alors, pour ce qui est de la reconnaissance par le Conseil de l'Europe en 1980, je crois que c'était uniquement à titre consultatif, donc... moi j'étais en mouvement à cette époque-là, je n'en ai même pas entendu parler. Peut-être même je l'ai lu, mais ça n'a perturbé personne, si vous voulez. Par contre, ce qui s'est passé après pour 2003, oui, là c'était non plus consultatif mais participatif, donc là ça a peut-être plus bougé. Quant à la reconnaissance par l'épiscopat, hein, les évêques de France, ça mettait fin, j'allais dire, à une longue période qui a été quand même, on peut dire, très difficile, quoi. Il faut bien comprendre que l'épiscopat, au début, était vraiment contre nous, hein, contre les scouts d'Europe. Ils ne pouvaient pas les voir en couleur. On était vraiment rejetés, quoi. On a connu l'époque où je l'ai vécu pour de vrai, hein, où des évêques, dans certains diocèses, avaient donné l'ordre à leur curé de paroisse de refuser la communion aux scouts d'Europe en uniforme. Moi, on m'a fait quitter mon foulard et les foulards de toute la troupe en allant à une messe au cours d'une explo, quoi. Et enlevez-moi tout ça, on ne veut pas vous voir, et puis vous restez là. Et puis, c'était vraiment méchant. Et on était vraiment rejetés, quoi. On n'était même pas les incompris, on était vraiment rejetés. Alors, c'était. L'épiscopat à l'époque n'était pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Hein. Pour vous donner l'exemple de 1974, pour les 50 ans. De la JOC, il y a eu une grande cérémonie, hein, où les évêques étaient conviés quand même pour la cérémonie finale. Je crois qu'il y avait au moins une trentaine qui étaient présents à la fin, pour la dernière journée. Et la dernière journée, c'était une allocution de Georges Marchais, qui était comme le secrétaire général du Parti communiste, et suivi de l'international, quoi. Donc on avait quand même un épiscopat qui était très marqué, on va dire, à gauche, voire à extrême gauche à l'époque, et qui n'hésitait pas même à se montrer à ce genre de réunion, ce qu'aucun évêque aujourd'hui ne ferait, bien sûr. Hein, c'est même impensable, on ne comprendrait même pas qu'il y en ait un qui puisse se risquer à faire ce genre de choses. Voilà, donc ça a quand même beaucoup changé, et c'est vrai qu'à partir de la phrase du pape Paul VI, Saint Paul VI maintenant, parce qu'il est canonisé en 1975, le 10 septembre 1975, tous les évêques de France ont compris que les scouts d'Europe avaient comme acquis à Rome, donc au niveau du pape, une reconnaissance qu'il convenait à leur petit niveau, à eux dans les diocèses, bien de au moins d'admettre, puis enfin de, on va dire, plus ou moins de reconnaître. Et puis il faut dire aussi que dans ces années-là, les années 70-80, c'est là où on a vu les premiers chefs du mouvement rentrer dans les séminaires, dans les couvents. Donc petit à petit, on a vu des ordinations diaconales, puis sacerdotales, des vœux, des professions, etc., religieuses qui ont été faites. Mais par contre, il faut attendre 2003 pour voir le premier scout d'Europe devenir évêque. C'est Dominique Hugh, hein, le fils de Bernard, qui sera donc sacré évêque en 2003. Voilà, donc petit à petit, voilà, l'épiscopat a comme bien vu que les scouts d'Europe n'étaient pas des ennemis, des gens à exclure de l'Église parce que ceci ou parce que cela, qu'au contraire, eh bien, ils commençaient à remplir un tout petit peu les séminaires ou les monastères. Voilà.
Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner un peu l'image que les scouts d'Europe auront laissée à l'histoire du scoutisme ?
Oui. Alors, si vous voulez, si on prend, par exemple, les scouts de France, tels qu'ils ont été créés, ils ont été créés par le père Sevin, et l'image qu'on a des scouts de France, en fait, c'est l'image tutélaire du père Sevin, jésuite, vénérable maintenant, puisqu'il est déclaré vénérable. C'est lui qui était le patron du CHAM, le Chamarande. C'est lui qui a écrit les livres, qui a écrit les textes pédagogiques, la promesse, la loi, etc. C'est lui qui a tout fait. Les scouts de France, je crois, je parle des anciens, je ne parle pas des actuels, hein, je parle des anciens jusqu'aux années 60, avaient quand même comme modèle, on va dire, le prêtre jésuite fondateur, et qui bientôt, peut-être, il faut prier pour ça, montera ses autels. Mais avec les scouts d'Europe, alors même si Pierre Giraud n'a pas été le fondateur historique des scouts d'Europe, c'est Jean-Claude Alain, Jean-Léopold et Jean-Claude Alain, c'est quand même... Pierre Giraud et Lucienne, sa femme, Péric et Lizig, c'est comme eux qui ont conduit le mouvement pendant plus de 20 ans, jusqu'à leur éviction, et ils ont donné l'image d'un foyer, qui était en charge de l'éducation des enfants. C'était plus le prêtre jésuite qui a fondé un mouvement uniquement masculin. Là, on avait un foyer à la tête d'un mouvement garçons et filles, donc éducation complète, même si la mixité n'était pas appliquée dans les unités, mais mouvement garçons et filles avec les mêmes uniformes, les mêmes insignes, les mêmes pédagogies, etc. Et c'était un foyer catholique qui était à la tête, et c'était bien des foyers catholiques sur le terrain qui continuaient. Il y avait mes parents, bien sûr, mais les Mougenot, les Chalands, les Loirères, les Turennes, etc. C'était tous des foyers qui étaient conscients de l'enjeu de l'éducation par le scoutisme. Et je pense que Pierre et Lucienne Giraud Caraode, eh bien, ont été en quelque sorte cette image de mouvement que l'on voit encore maintenant. Et puis, je crois qu'ils ont parfaitement incarné la vision conciliaire de l'apostolat des laïcs. Voilà, il n'y a plus besoin d'un prêtre jésuite pour s'occuper de la formation des jeunes. Maintenant, des foyers peuvent le faire et peuvent même bien le faire. Et c'est ce qu'ils ont démontré.
On peut d'ailleurs rappeler que les initiales de Péric Giraud Caraode, PGK, restent dans tous les ceinturons des scouts d'Europe avec sa
Ah oui, oui, phrase. Bien sûr, bah oui. Mais PGK, c'était... Il n'y avait que lui qui a fait ces initiales-là, voilà, PGK, oui. Voilà, PGK. Donc. Et on disait Péric à nous, c'est Péric, mais voilà. C'est comme eux qui ont donné cette image de foyer au service de la jeunesse, dans un rôle d'éducation des enfants, de leurs enfants, bien sûr d'abord, hein, mais et de la jeunesse. C'était des... Voilà, et je pense que c'est... Et puis un mouvement garçon-fille, c'était le premier mouvement garçon-fille. Alors, je ne parle pas des mouvements qui avaient déjà adopté la mixité, comme les éclaireurs et éclaireuses de France, mais un mouvement qui réunit ces garçons et filles, qui a été repris après par les SUF, qui ont été repris... Même les scouts de France se sont liés avec les guides de France et maintenant sont devenus un mouvement mixte. Ils ont en quelque sorte copié les scouts d'Europe. Voilà. Mais... sauf qu'ils ont gardé scouts avant les guides, voilà, pour garder les... Mais voilà, c'est l'image, pour moi, l'image des scouts d'Europe, ça sera cette image de foyer au service de la jeunesse qui ont fait du beau scoutisme. Vraiment une belle aventure, un scoutisme plein vent.
Un grand merci, Marc de Coligny, pour toutes ces réponses à propos des scouts d'Europe. Puis je donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour un prochain épisode à propos de l'histoire des SUF avec Christophe Carichon. Merci beaucoup et à bientôt.
Au revoir.